Alors, bonjour tout le monde. Ce podcast représente les opinions d'un expert clinique. Le contenu ne doit pas être considéré comme un avis médical et ne remplace en aucun temps les lignes directrices officielles des sociétés savantes. Si vous êtes un patient, nous vous invitons à consulter votre professionnel de la santé pour toute question médicale.
Voici Dr. O'Meara, cardiologue clinicienne chercheuse à l'Institut de cardiologie de Montréal, spécialisée en insuffisance cardiaque, membre du comité des lignes directrices d'insuffisance cardiaque du CCS, qui vous présente le podcast sur les BNP. Donc, première question, quels sont les BNP, NP ou BNP et quelle est la physiopathologie de leur évaluation?
Bonjour, mais merci de l'invitation. Ça me fait plaisir d'être avec vous pour la SQIC ou SQIC, on ne sait jamais. Et donc, les peptides natriurétiques, finalement, BNP et NT-proBNP, pour pro-brain natriuretic peptide. Donc, pensez initialement que ça venait du cerveau. Finalement, on s'est rendu compte que ça vient surtout des ventricules, produits par les ventricules lors de l'étirement des fibres myocardiques. Ça peut être par une augmentation de pression ou de volume que les fibres sont étirées. Puis, on va voir aussi qu'il y a d'autres causes, mais principalement donc, comme mécanisme initial. Ça, c'est dans les années 80 qu'on a découvert ça. Puis, dans les années, en fait, début des années 90, on a remarqué aussi que les peptides natriurétiques étaient élevés dans l'infarctus du myocarde. Et le BNP est produit, dans le fond, sur demande grâce à l'augmentation de son expression génique, de la synthèse protéique et de la sécrétion qui vont répondre rapidement à l'étirement des fibres myocardiques. Après, si on regarde lors d'une interaction avec surtout le NPR récepteur A, l'action physiologique des peptides natriurétiques, ça va être notamment au niveau du rein, vasodilatation de l'artériole afférente et vasoconstriction d'artériole efférente pour augmenter le débit de filtration glomérulaire. En inhibant la pompe NaH aussi, on va avoir de la natriurèse, effet diurétique et natriurétique en augmentant le flot sanguin médulaire. Augmentation de la diurèse aussi par une interaction avec l'AVP, un récepteur de vasopressine. Au niveau cardiaque, diminution de la précharge et de la postcharge, encore natriurèse et diurèse qui ont un impact cardiaque évidemment. Inhibition du remodelage cardiaque, hypertrophie et fibrose. Hémodynamique, on a vasorelaxation. Suppression de la prolifération des cellules musculaires lisses, suppression de la fibrose vasculaire. Au niveau de la pulmonaire, réduction de l'hypertension pulmonaire, de la fibrose pulmonaire, élévation de la conductivité des capillaires hydrauliques. On va avoir au niveau endocrinien, donc suppression de l'axe rénine-angiotensine-aldostérone par les peptides natriurétiques, diminution du flot sympathique de l'AVP, de l'endothélium, puis finalement au niveau de la mitogénèse, inhibition de la fibrose, comme on avait parlé, mais par action sur un facteur de croissance.
Pouvez-vous commenter sur quand est-ce qu'on devrait doser les BNP versus les NT-proBNP, la distinction entre les deux?
Oui, en fait, on recommande actuellement dans pas mal toutes les lignes directrices à travers le monde que lorsqu'on suspecte une insuffisance cardiaque, on devrait doser les peptides natriurétiques pour le diagnostic lorsqu'on a des symptômes donc, suggestifs d'insuffisance cardiaque. Donc, l'élévation va supporter le diagnostic, mais bien sûr, on a des diagnostics différentiels. Et quand on a une suspicion clinique plus une élévation, bien, on peut guider à une investigation cardiaque plus poussée. On peut aussi noter qu'il y a des facteurs qui vont faussement abaisser les peptides natriurétiques. Je pense qu'on va y revenir plus tard. Si on regarde les causes cardiaques d'augmentation des peptides natriurétiques, bien sûr, il y a l'insuffisance cardiaque et les syndromes coronariens qu'on a vu, comme on a vu quand il y a eu la découverte de ces peptides-là, la dysfonction diastolique aussi, on va parler peut-être de la fraction d'éjection préservée, insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, un de mes sujets que j'aime bien. Les cardiopathies hypertrophiques restrictives, mais aussi les péricardites, la FA, l'amyloïdose, l'hypertension non contrôlée, l'ischémie, la valvulopathie, tout ça peut augmenter. Ce sont des causes cardiaques. Donc là, selon les algorithmes, notamment dans les recommandations européennes sur le traitement d'insuffisance cardiaque et le diagnostic, on vous dit s'ils sont élevés, bien, procédez à une échographie. Et quand on dit élevé, mais mettons en ambulatoire, un patient qu'on voit en clinique externe, ça va être un NT-proBNP à 125 picogrammes par millilitre et plus. Ou ça, c'était le NT-proBNP plus grand ou égal à 125, puis le BNP plus grand ou égal à 35 picogrammes par millilitre. Si on a ces valeurs-là, on devrait sûrement procéder à une échographie là, pour voir c'est quoi la condition cardiaque qui est associée. C'est la même chose, on avait écrit la même chose dans les guidelines canadiens en 2017. Est-ce que vous voulez savoir si on devrait choisir NT-proBNP ou BNP?
Oui.
Donc, dans les dernières années, on s'est aperçu que la valeur diagnostique et pronostique indépendante des deux était présente, que ce soit BNP ou NT-proBNP. Comme vous savez, des fois, ça va être des questions de disponibilité locale et de coût selon les fabricants auxquels on a accès. Dans l'insuffisance rénale, il y a certaines études qui suggèrent que le NT-proBNP serait supérieur pour prédire l'insuffisance cardiaque. Quand on utilise un ARNI, on devrait utiliser le NT-proBNP, surtout au début. Ça, je peux mentionner quelques mots là-dessus. Surtout au début du traitement, là, parce qu'en fait, l'ARNI, donc SZ, Entresto, sacubitril valsartan, pour être plus adéquat, donc va agir sur la néprilysine qui, elle, est placée dans la cascade d'événements là, après le scindage du BNP et du pro-BNP en BNP, NT-pro-BNP. Donc, va faire augmenter l'inhibition de la néprilysine, le BNP au début de traitement, mais n'agira pas sur le NT-pro-BNP. Mais ce qu'on a vu dans l'étude Paradigme, c'est qu'en fait, on a vu ça au début du traitement, mais après, dans le fond, ça veut dire que le traitement fonctionne, agit au niveau de sa cible, mais après, donc les patines natriotiques vont diminuer grâce à ce traitement et plusieurs autres traitements là, en insuffisance cardiaque. Donc, surtout en début de traitement, faire attention. Pour la conversion, ça, c'est pas évident parce qu'il y a des gens qui disaient, ah ben, BNP, on pourrait multiplier par 5 environ, puis on arriverait au taux de NT-proBNP. Mais il y a une étude en 2020 dans Circulation Heart Failure qui suggère que ce ratio-là, finalement, varie vraiment, ça peut être de 5 à 8, en fait. Selon qu'il y a de la FA, comme par exemple, ça peut être 8 pour 1, pas de FA, 5,8 pour 1, et selon l'âge, la fonction rénale, l'indice de masse corporelle, ça peut être influencé, là, la conversion, mais ce n'est pas tellement la fraction d'éjection qui influence ça. Et par contre, dans ces études-là publiées en 2020, on voit que autant le NT-proBNP que le BNP prédisaient la mortalité et les hospitalisations pour insuffisance cardiaque.
Merci beaucoup. Je pense qu'on en a discuté quand même, là, les situations pertinentes pour lesquelles doser les BNP, NT-proBNP. Est-ce qu'il y a d'autres situations, par exemple? Sinon, on passera à la prochaine question.
C'est sûr que même dans l'insuffisance cardiaque, on a parlé de diagnostic et ça peut dépendre aussi de la fraction d'éjection. Là, si la fraction d'éjection est préservée, on a souvent des niveaux moins élevés. Mais la plupart du temps, un niveau de NT-proBNP en haut de 300, plus grand ou égal à 300, là, ça va être anormal. Ensuite, il y a des algorithmes qu'on peut regarder selon l'âge, là, ça je pourrais vous les nommer. Mais après, en insuffisance cardiaque, facteur de risque pour l'insuffisance cardiaque, on va avoir nos valeurs seuil dont j'ai parlé au début. Donc, NT-proBNP plus grand ou égal à 125, BNP plus grand que ça peut être 35 ou 50, là, selon les différentes recommandations. Et par contre, si on a un patient insuffisant cardiaque qu'on suit en ambulatoire, si ça augmente de plus que 30 %, mais peut-être qu'on devrait faire des suivis plus étroits, augmenter la thérapie. Si le patient est ostasé pour l'insuffisance cardiaque ou avant de partir, on aimerait bien que la valeur diminue de plus de 30 %, mais c'est un chiffre un peu arbitraire. Comme vous savez, là, il y a des études qui ont regardé ce que ça faisait si on essayait de descendre en bas de 1000. C'est sûr que quand on fait ça, c'est en général associé à un bon pronostic, mais ce n'est pas possible chez tous les patients et pas nécessairement associé aux événements futurs. Disons qu'on part de 15 000 puis qu'on sort à 6 000, là, mais c'est important que ça diminue. Disons, ce n'est pas élégant quand le patient sort avec un MT pro BNP plus élevé que quand il est rentré. Probablement qu'on n'a pas fait un travail extraordinaire. Je ne sais pas si ça répond à vos questions.
Tout à fait, oui, merci. Puis, est-ce qu'il y a des conditions non cardiaques qui pourraient élever les NT pro-BNP?
Oui, c'est ça. Ça, il y a des tableaux dans les recommandations de la Société européenne de cardiologie en 2021, notamment, qu'on peut retrouver. Donc, la maladie pulmonaire, MPOC, parce que ça augmente la charge sur le VD, parfois associée à l'hypertension pulmonaire, qui elle-même est une cause, l'embolie pulmonaire également, le sepsis, l'hypertension artérielle, qui en fait peut augmenter la charge de pression au niveau du ventricule gauche, l'insuffisance rénale qui va affecter la clairance, qui augmente souvent la charge de volume également. Avec l'âge, comme on a vu, ça augmente. L'AVC, ischémique, HSA, hémorragie subarachnoïdienne, ça c'est probablement par des mécanismes qui sont liés avec le cœur, un peu comme ce qu'on voit sur les ECG de ces patients. Là, on a un effet aussi sur l'axe neuro-hormonal. L'insuffisance hépatique, cirrhose, acide, syndrome paranéoplasique. Un des cas les plus intéressants que j'ai vu, c'était une dame dans les 70 ans qui est arrivée avec un NT-proBNP dans les 15 000. On a une boule l'asséchée complètement, la peau. Ça bougeait quasiment pas. On a découvert un cancer du pancréas, finalement. Brûlure sévère et anémie sont d'autres causes potentielles.
Notre prochaine question, c'était comment interpréter l'INP pour BNP dans le cadre clinique. Vous en avez déjà glissé un mot. Est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter pour ce point-là?
Le cadre clinique, c'est ça. Les facteurs confondants peuvent être introduits là-dedans comme un qui est intéressant et très en vogue, là, c'est l'obésité versus les peptides natriurétiques. C'est dommage, là, les patients qui ont un IMC élevé, on a beaucoup de difficultés parce que les peptides natriurétiques, ce n'était pas le meilleur marqueur pour eux, mais là, à date, on n'en a pas trouvé de meilleur. Il y en a qui suggèrent que si l'IMC est en haut de 35 kg par mètre carré, on devrait penser qu'un BNP en haut de 54, c'est déjà 90% sensible de détecter l'insuffisance cardiaque, mais peut-être plus en conditions aiguës. NT pro BNP, ce n'est pas clair. Il n'y a pas vraiment de valeur seule, mais j'ai revu hier, j'ai pensé à vous, j'ai vu une patiente qui a nettement un IMC en haut de 35, puis elle me dit, bon, elle pleurait quand je lui ai parlé au téléphone l'autre fois. Je dis, mais là, vous allez venir, puis on va faire le tour de la question, tout ça. En fait, cette dame-là, elle a déjà eu une procédure de Ross, et puis son écho est super belle. Les deux valves en aortique et pulmonaire sont parfaites. Tout est parfait. On a recherché, on était jusqu'à la coro, il n'y a encore rien. Mais on n'a pas fait de cathé droit, par contre. Mais j'ai remarqué en la voyant hier là, que ses papilles natriurétiques, il y a à peu près 2 ans, il est NT pro BNP est à 95 environ, puis il est rendu à 295. Fait que là, je me suis dit, mais il y a sûrement quelque chose qui se passe. La seule chose qui sortait dans ses prises de sang, c'était une CRP un peu élevée. Puis là, elle me racontait des symptômes bizarres. Je dis, bon, elle a-t-il une collagénose? Donc là, on va regarder un peu de ce côté-là. Puis j'ai prescrit un peu de spironolactone. J'ai augmenté son camp des artères. Sa pression n'était pas très haute. Mais donc, c'est ça, c'est des cas difficiles au niveau d'obésité des patients qui sont essoufflés. Puis elle me dit, moi, j'ai des amis qui sont essoufflés, qui sont de la même grosseur que moi. Je ne comprends pas. J'ai plus de qualité de vie. Alors, à ce moment-là, là, ça peut être une indication pour aller au cathétérisme cardiaque.
Donc, dans le fond, pour plus, par exemple, les professionnels qui sont en première ligne, On se demandait, t'sais, c'est quand que, par exemple, il faudrait doser les BNP, NT pro BNP, puis quand qu'on doit référer en cardiologie, par exemple, et est-ce qu'il y a des tests à faire avant de référer en cardiologie?
OK, bien, excellent. Je pense que les médecins de première ligne s'en servent peut-être pas assez, des peptides natriurétiques. Ça, je sais, j'ai des collègues qui ont travaillé beaucoup pour l'accès au Québec. Puis l'accès au Québec est excellent par rapport à d'autres provinces. Donc, sans s'en servir à outrance, quand ton patient est essoufflé et qu'il y a des facteurs de risque d'insuffisance cardiaque, on devrait peut-être aller d'abord ausculter le patient et compenser au diagnostic différentiel à partir d'abord de l'examen physique et des facteurs de risque. Puis là, si on a moindrement un doute, on fait une échographie, on fait le peptide natriurétique et si on tombe dans des valeurs moindrement élevées qu'on a mentionnées, à ce moment-là, aller vers l'écho puis peut-être rechercher l'ischémie quand on a un doute là-dessus aussi. C'est vraiment les deux choses principales. Est-ce qu'on devrait le faire à tout le monde? À quand on a un niveau de suspicion assez élevé. Il ne faut pas oublier, par contre, que la personne âgée va avoir un NT-proBNP plus élevé de nature, là. Mais c'est rare qu'on voit en haut de 500-600 puis qu'il n'y a absolument rien, là. C'est pour ça que maintenant, dans les études de fraction d'éjection préservée, on va utiliser des valeurs comme ça en rythme sinusal. Puis quand c'est en FA, on va utiliser 2-3 fois 500. Là. Donc, ça peut être 1000 ou 1500 qu'on demande parce que la FA, ça fait augmenter aussi. Fait penser à ça quand les médecins de première ligne vont le rechercher. Ah oui, c'est vrai, mon patient, il a une FA chronique. Fait que ça se peut, s'il a 75 ans, que j'ai des 400-500. Mais si moindrement j'ai un doute, je pense que ça vaut la peine de procéder à une écho. Puis si on pense qu'il pourrait avoir une composante ischémique puis que le CG permet un diagnostic à l'épreuve d'effort, que le patient est capable de le faire, on peut commencer par un simple tapis roulant qui est un test de dépistage qui ne coûte pas cher.
Une autre question pour les professionnels de la première ligne. Là. Lorsque les BNP reviennent normaux, mais que notre suspicion d'insuffisance clinique demeure très élevée, qu'est-ce qu'ils devraient faire les professionnels de première ligne?
C'est ça, fait qu'aller vers l'écho pour les autres, les causes hein, qui, maladies valvulaires qu'on n'a peut-être pas entendues, il y en a qui sont plus difficiles comme la sténose mitrale. Est-ce qu'on a de la péricardite onctive si on devrait voir des jugulaires élevés? Il y a aussi les maladies plus rares, sarcoïdose, les cardiopathies, c'est les patients plus jeunes, des fois, là, bon, c'est sûr que ça, on le verra peut-être même pas à l'écho. Alors là, si on est vraiment convaincu puis qu'on a un petit natriurétique élevée, on devrait référer en cardiologie. Patients plus jeunes aussi, les maladies congénitales, maladies génétiques, dysplasie arythmogène du cœur droit, des choses comme ça là, qui sont facilement manquables, même à l'écho. On peut regarder aussi s'il y a de l'arythmie, etc. Là. Donc, je ne sais pas si c'est aidant, mais donc, puis dernier recours, alors, on a fait l'écho, on a cherché l'ischémie. Il n'y a rien qui ressort, soit qu'on envoie en cardio, puis eux autres, à ce moment-là, peuvent décider d'aller éventuellement vers un cathétérisme cardiaque. Et donc, aller déjà pourraient faire la coro et aller mesurer les pressions dans le cœur.
Merci beaucoup. Donc, nous, ça fait pas mal le tour des questions qu'on avait là, au sujet des BNP. Je ne sais pas si de votre part, vous vouliez rajouter quelque chose, qu'on avait manqué des informations, mais sinon, on aurait... C'est ça, poser toutes nos questions.
Bien, je pense que ça fait le tour. C'est super intéressant. Puis je pense qu'il faut. Il y a beaucoup de patients qui sont essoufflés. Et puis, c'est pas facile dans les entrevues téléphoniques, là, dans la pandémie qu'on vit. Des fois, ça vaut la peine aussi de les examiner parce qu'on trouve des choses à l'examen physique. Puis les petites natriurétiques, bien, si on n'a pas la capacité de les voir sur place, c'est une chose qui peut vraiment nous aider aussi.
Merci beaucoup, Dr. Omeira.
Avec plaisir. Merci d'avoir invité.
Merci beaucoup.